Alors ce matin, on va continuer nos études dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. On va prendre le texte juste après celui que nous a partagé David la semaine dernière, à partir du verset 20. Mais avant ça, comme toujours, j'aime bien vous commencer par un petit quiz, une petite illustration. Et je voudrais vous poser une question. Quel est le point commun entre l'enfant qui criait au loup et Leonardo DiCaprio? Quel est le point commun entre l'enfant qui criait au loup et Leonardo DiCaprio? Alors très rapidement, l'enfant qui criait au loup, c'est une histoire d'un fils de berger, un berger lui-même, qui avait un troupeau de moutons. Sauf qu'il s'ennuyait un peu et pour s'amuser, il allait faire croire aux villageois de son village qu'un loup attaquait ses moutons. Et donc les villageois, ils arrivaient avec leurs fourches, avec leurs armes pour essayer de chasser le loup qui n'était pas là. Un loup fictif. Et donc il fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et les villageois commencent à se lasser. Sauf qu'un jour, le loup arrive pour de vrai. Et comme d'habitude, l'enfant va crier au loup pour que les villageois viennent l'aider. Sauf que les villageois, à force de l'avoir entendu encore et encore pour rien, n'ont pas cru cette fois-ci alors que c'était la vraie. Et les moutons se sont fait dévorer. Leonardo DiCaprio, dans son dernier film qui est sorti il y a à peine un mois sur Netflix, il s'appelle « Don't Look Up », c'est un astronome qui a remarqué qu'une comète allait s'écraser sur la Terre. Et donc, il va faire tout en œuvre avec sa collègue pour avertir le monde que cette comète va s'écraser, que la fin du monde est proche. Sauf que les contemporains de son époque, en fait, ils sont tellement fascinés, tellement été avertis de ce type de catastrophe, ils ont vu tellement de films, Armageddon, etc., qu'en fait, ils ne les prennent pas au sérieux. Ils pensent que c'est encore un complot pour essayer de leur faire consommer tout ce qu'il faut avant la fin du monde, etc., etc. Ils ne croient pas que cette comète va s'écraser sur Terre. Alors finalement, quel est le point commun entre l'enfant qui criait au loup et Leonardo DiCaprio? Le point commun, c'est qu'en fait, ils vivent tous les deux dans un monde, imaginaire évidemment, où l'urgence du danger, l'urgence de la fin du monde leur a tellement été racontée, prédit, falsifié depuis toujours, depuis tellement longtemps que, au moment où cela arrive vraiment, on n'y croit plus, on s'y prépare plus. Et alors, je vous invite à garder bien cela en tête, cette image, parce qu'elle va nous servir pour le texte qu'on va voir. Parce que ce texte-là, dans Luc chapitre 17, va nous parler aussi de cette fin du monde, du jour du Seigneur, du royaume de Dieu. Ce texte, il va commencer et finir par une question. Quand aura lieu ce jour du jugement, ce jour de l'Éternel, et où? Et ces questions, c'est peut-être également les nôtres. Imaginez avoir la possibilité de connaître le jour, l'heure et le lieu de votre mort. Qui s'en priverait? Eh bien malheureusement, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'on n'aura pas la réponse à ces questions. En effet, on va voir que le message de ce matin, c'est le suivant. Ne cherche pas à savoir, à connaître la date et le lieu de la venue du royaume de Dieu. Au contraire, recherche Christ et sois prêt à son retour. Recherchons Christ en étant préparé à son retour. Je vous invite à lire dans Luc 17 après, cela on priera ensemble. Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Il est ici, il est là ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu. Et les a tous fait périr. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait périr. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la gardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Oui, Père, c'est un texte pas facile qu'on va devoir prendre ensemble ce matin. C'est vrai que les promesses de ton retour, de ton royaume, elles nous fascinent autant qu'elles nous effraient. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ta parole. Merci pour ces textes-là qui nous ramènent à l'essentiel, à savoir non pas le quand ou le où, mais la personne à son centre, à savoir toi. Je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole, que ton esprit puisse travailler en nous, afin que nous puissions, nous aussi, vivre dans l'attente de ton retour et préparer à celui-ci. Amen. Recherchons Christ, préparé à son retour. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre texte commence par une question. Quand viendrait le royaume de Dieu ? Cette question, peut-être qu'on se l'est déjà posée, mais il faut savoir que pour les pharisiens de l'époque, elle était lourde de conséquences. Alors, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on parle de ces pharisiens. Rappel très bref, ce sont des personnes qui connaissent très bien l'Ancien Testament, le début de la Bible. Ils connaissent très bien la loi de Moïse et les différentes prophéties de ce fameux jour du Seigneur, de ce jour du Fils de l'homme qu'on peut voir dans Daniel 7. Et ils savent aussi qu'à la fin de l'Ancien Testament, on a des livres qu'on appelle, nous, les petits prophètes. Alors, c'est pas des livres qu'on connaît tous, qu'on connaît très bien. C'est pas aussi des livres qu'on étudie beaucoup à l'Église, à part peut-être Jonas, Habacuc et d'autres. On les mentionne et on les étudie peu. Mais dans certains de ces livres, on nous parle du jour du Seigneur. Et si je vous prenais juste un exemple dans le livre de Joël, l'un des 12 petits prophètes, au chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit ? On nous parle d'un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore et se répand sur les montagnes. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Voyez ce que ces pharisiens, lorsqu'ils posent cette question, s'imaginent. Des signes visibles, comme on peut le lire dans Joël chapitre 2. Visibles sur la terre et dans le ciel. Un jugement contre les nations. Un jugement où personne ne pourra le soutenir. Ils s'imaginent la venue d'un libérateur qui viendra les libérer de l'oppression de Rome. Il faut savoir que ces promesses-là, elles ont plus de 400 ans. 400 ans de silence pendant lequel ils s'attendent encore. Ils attendent la descendance du roi de David, ce libérateur. Le peuple s'impatientait tellement qu'il y eut des révoltes. Hein, on pense à celle des Maccabées, etc., etc. Ils attendent patiemment la fin, ce jour où un libérateur viendrait pour les libérer. Voyez, ils cherchaient des signes précurseurs de cette fin des temps. À un moment, ils pourraient le dire, « Aïe, c'est bon, c'est maintenant, c'est le moment. La fin est proche, son règne vient. » Peut-être que nous aussi, on est dans cette optique-là. On est comme ces pharisiens. On cherche des signes avant-coureurs. La première guerre mondiale, c'est la fin du monde qui arrive. Eh bien, finalement, non. La seconde guerre mondiale, à la suite, toujours pas. Le Covid, c'est un signe de la fin des temps. Le vaccin, c'est la marque de la bête, etc., etc. Bref, voyez comment chaque nouvel événement tragique à l'échelle mondiale amène son lot de suspicions sur la fin des temps. Je pense que ce sont des signes de la fin. Sauf que quelle est la réponse de Jésus à leurs questions? Versets 20 et 21, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Car voici, verset 21, le royaume de Dieu est au milieu de nous, au milieu de vous. En gros, il nous dit que, un, il ne viendra pas de manière à frapper les regards, que deux, le royaume est déjà là. Pas besoin de chercher des signes extraordinaires de sa venue. Christ leur montre que finalement, le royaume de Dieu ne saurait être confiné à un endroit, à un lieu géographique, qu'il saurait être lié à des signes visibles et formidables, mais qu'il serait inauguré de manière invisible aux yeux humains. Il aurait eu lieu où ? La suite de la Bible nous en parle, dans le cœur des hommes, par le moyen de la foi en Christ. Le roi tant attendu est là, devant leurs yeux. Ils s'imaginaient un Dieu qui viendrait les sauver de ce sable mouvant. Sauf que qu'est-ce qu'ils voient devant eux ? Même pas un pompier, ils voient un charpentier. Ils se disent, ben non, c'est pas ça qu'on attend. On attend Dieu lui-même qui vienne faire des miracles, qui vienne nous sortir de ces sables mouvants. Merci Antoine pour tes images. Sauf que, qu'est-ce que nous dit Jésus ? Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Ça peut paraître contradictoire. Le royaume arrive, il vient, mais il est déjà là. Ça paraît bizarre, mais c'est en théologie ce qu'on appelle le « déjà » et le « pas encore ». Nous sommes déjà au bénéfice des bénédictions spirituelles, mais encore dans l'attente du salut final, de la gloire finale. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on connaît encore la souffrance, qu'on lutte encore avec notre chair. C'est pour ça qu'alors que Jésus nous dit « ne pêche plus », on pêche encore. On a dans ce temps présent déjà part aux souffrances de Christ, pour avoir dans l'âge à venir part à sa gloire, dans l'attente de la résurrection des corps, de la perfection et de la sanctification parfaite à laquelle nous cherchons à tendre toute notre vie. Ce déjà et ce pas encore. Et si ça peut paraître compliqué à comprendre, laissez-moi vous présenter une illustration. 6 juin 1944, qu'est-ce qu'il se passe ? D-Day, le jour du débarquement, Omaha Beach, en Normandie. Les Alliés débarquent et libèrent les plages occupées par les Allemands. Ils libèrent les plages, puis les villes, puis le nord de la France. Et ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de ce débarquement, la victoire et l'issue de la Seconde Guerre mondiale étaient déjà certaines, inéluctables. Pourtant, il a fallu presque attendre encore un an. Ce même jour, il y a 77 ans, le 8 mai 1945, pour que la guerre soit officiellement terminée. La victoire était déjà terminée dans les esprits, dans les cœurs, aussi, après ce débarquement, mais il a fallu attendre un an pour qu'elle soit réellement terminée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on fête le 8 mai comme un jour férié, sauf cette année où c'est un dimanche, malheureusement. Fallait que je fasse la blague, obligé. Voilà, on connaissait l'issue, on connaissait la victoire, mais on était encore dans l'attente de sa réalisation finale. Et bien, c'est pareil pour le royaume de Dieu. On connaît l'issue. On connaît l'issue du combat final avec Satan, sa victoire sur le péché, sur la mort. Nous sommes encore dans l'attente de ces moments finaux. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est ces moments finaux qui nous préoccupent. C'est ça qui nous tient en haleine. C'est ça qui nous fait nous poser cette question, quand et où ? Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, quand nous dit ce texte, ils diraient, on vous dira, il est ici, il est là. On se rappelle, on a énormément de choses dans l'histoire qui nous ont dit, bah voilà, Bougarache, 2012, vous connaissez ces fameux films, la fin du monde selon le calendrier Maya, et bien d'autres, nombre et nombre d'annonces de la fin du monde. Et pourtant, elle n'a pas encore eu lieu. Car comme nous dit Jésus, au moment où cela va arriver, verset 24, cela viendra comme un éclair, soudain, bref et effroyable. On n'aura pas le temps de le prévoir à l'avance. Alors finalement, que retenir de ces versets ? Est-ce que toi aussi, comme ces pharisiens, tu vis comme si le royaume de Dieu n'était pas encore déjà venu ? Est-ce que ta rencontre avec Jésus change quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Es-tu plus préoccupé par le spectacle effroyable que provoquera le jour du Seigneur et les signes qui l'accompagneront, plus préoccupé par le Seigneur lui-même et le roi en son centre. Et à comment le suivre, à comment lui ressembler davantage. Voilà ce que nous invite le début de ce texte, à rechercher Christ davantage, à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme nous disait un texte qu'on a étudié en Luc 12 il y a quelques semaines, à rechercher Christ plutôt que les signes de la fin du monde. Recherchons Christ. Alors Jésus vient de répondre à la question de quand viendrait le royaume de Dieu en nous disant qu'il est déjà là, au milieu de nous, de manière invisible, dans nos cœurs. Et ce qu'il va nous montrer ensuite, c'est qu'on a beau savoir ça, que le retour du Christ vient, qu'il est déjà parmi nous, mais pourtant, il va nous montrer qu'on ne vit pas de manière préparée à son retour. Un peu comme les villageois dans l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Et pour ce faire, pour qu'on ait vraiment conscience de l'urgence, Jésus va nous rappeler deux événements, deux cataclysmes qui ont eu lieu dans la Bible, au début de la Bible, dans ce qu'on appelle la Genèse, à savoir le déluge, avec l'histoire de Noé, et la destruction de Sodome et Gomorre, l'histoire de Lot. Deux récits à nous glacer le sang. Des textes qui nous montrent la raison du jugement. On nous dit, en Genèse chapitre 6, que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Que la terre était corrompue. Elle était pleine de violence. On nous dit quoi en Genèse chapitre 19, l'histoire de Sodome et Gomorre, pareil. Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, leur péché est énorme. Deux textes qui nous montrent la raison du jugement de Dieu. Un peuple qui vit dans l'iniquité, un peuple corrompu, dont le péché est énorme. Et ainsi donc, si on est honnête, on se rend compte que ce jugement divin, ce jugement qui nous semble si horrible à nos yeux humains, si atroce, mais il est en fait approprié. Il est révoltant, mais juste. Voilà ce qui se passe en Genèse chapitre 6, voilà ce qui se passe en Genèse chapitre 19, un peuple corrompu. Pourtant, qu'est-ce qui est mis en avant dans notre texte, en Luc 17, qu'est-ce qui est mis en avant? Manger, boire, se marier. Manger, boire, acheter, vendre, planter. Le jugement arrive. Le grand déluge, le soufre et le feu arrivent. Et que font les gens? Ils mangent, ils boivent, ils se marient. Autrement dit, ils vivent leur vie banalement, normalement, comme si de rien n'était. Voilà ce qui se passe. Alors, qu'on soit clair, ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi. Mais c'est quoi le problème ici? Qu'est-ce que Jésus pointe du doigt? Parce qu'il dit, c'est que le jugement arrive. Lorsque Lot va prévenir ses gendres, en Genèse chapitre 19, ils ont cru qu'il présentait et ils sont retournés à leurs occupations. Lorsque les contemporains de Noé ont dû voir Noé construire l'arche pendant des mois et des années, ils ont dû se poser des questions, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à leurs occupations. Manger, boire, se marier. Imaginez l'histoire du Japon, ce qui s'est passé au Japon en 2011. Il y a eu un raz-de-marée qui est arrivé sur les côtes, on a eu la catastrophe avec Fukushima. Et on a eu une histoire de cette personne-là qui était sur l'une des plages lorsque la mer, petit à petit, a commencé à se retirer. C'est un phénomène qui se passe avant un raz-de-marée, la mer commence petit à petit à se retirer. Et cette personne-là, elle savait ce qui allait se passer. Et donc, elle a commencé à avertir les personnes qui étaient sur la plage, qui étaient en train de profiter de la mer, de leur dire, fuyez le plus vite possible, le plus loin possible, parce que le tsunami arrive. Et beaucoup ont fait confiance à cette personne et ont pu être sauvés. Et on a des témoignages de cela. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas écouté cette personne. Et alors que la mer, petit à petit, commençait à se retirer, ils sont allés ramasser des coquillages pour mourir engloutis quelques dizaines de minutes plus tard. Cette histoire nous paraît rocambolesque, mais elle est réelle. Ça nous paraît insensé de faire ça alors que le tsunami, que le raz-de-marée arrive, de simplement profiter de vivre normalement à ramasser des coquillages. Mais c'est pourtant de cette manière-là qu'on se comporte au quotidien. On est tellement absorbé par notre vie de tous les jours, par tous les petits détails insignifiants ou non de notre vie, tels que boire, manger, vivre, que l'urgence du retour du Christ est en marche de notre vie. On passe notre temps à cuire des coquillages alors que le tsunami arrive. Et si on pense que nous, les chrétiens, on est différents, ben on se trompe. On passe des heures sur Instagram, sur Facebook, à regarder des films et des séries, à faire du sport et à sortir avec nos amis, alors qu'on n'arrive même pas à prendre quelques minutes pour lire notre Bible et pour prier. Christ est en marge de notre vie. Nos besoins matériels, nos conforts prennent la priorité sur nos besoins spirituels, sur notre dépendance à Dieu. C'est quoi la prière ? La prière, c'est la démonstration tangible de notre dépendance à Dieu. Finalement, lorsqu'on prie au monde, qu'on est dépendant de Dieu. Et si un jour on ne prie pas, on passe notre temps à faire du Facebook, de l'Instagram, regarder des séries, ça montre qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de Dieu. On est indépendant. On montre que Dieu est finalement simplement le Dieu de notre dimanche matin, parfois de notre vendredi soir, en fonction du thème de l'étude biblique. Qu'il est en marge de notre vie, plutôt qu'au centre. Vous voyez comment nous aussi, on vit comme ces hommes. On mange, on boit, on se marie. Plutôt qu'être concentré sur le retour de Christ. Alors oui, ici Jésus ne pointe pas ici nos péchés, nos défiances, mais il pointe ici notre indifférence. Parce que le problème, à nous les chrétiens, c'est pas qu'on rejette Christ, qu'on rejette son retour, on sait qu'il arrive. Notre problème, c'est qu'on le néglige. Et c'est là l'un des mensonges les plus pervers du diable. Pas de nous faire pécher, mais de nous faire oublier l'urgence, de nous faire croire qu'on a le temps. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Satan et ses trois démons ? Il y a les jeunes qui ont rigolé parce que chaque semaine, depuis quelques mois, je leur raconte cette histoire. Je ne vais pas vous la raconter ici, vous pourrez leur demander, ils la connaissent par cœur normalement. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire ? Elle nous rappelle que l'un des plus grands dangers, l'une des plus grandes tentations du diable, c'est même pas forcément de nous faire pécher, mais bien de nous faire oublier l'urgence du retour du Christ, de nous faire croire qu'on a le temps de boire, de manger, de vivre notre vie banalement, de ramasser des coquillages tranquillement. Et en négligeant, Jésus nous fait prendre conscience qu'on n'est pas prêt, qu'on ne se tient pas prêt à son retour. Et c'est pourquoi ce texte dans Luc 17 est capital. On aura dans Luc 21 la suite qui va nous dire comment faire. C'est pour ça que Jésus veut nous rappeler ces deux événements. Il veut les mettre en lien avec son retour. Il le fait pour que nous ne fassions pas la même erreur. Il le fait pour que nous y soyons préparés. Il s'agit d'un avertissement salutaire. C'est plus qu'une prévention. C'est une exhortation. Si Dieu annonce le jugement à Noé, c'est pour qu'il puisse y échapper. Si Dieu annonce le jugement à Lot, c'est pour qu'il puisse y échapper. Si Jésus, dans ces textes-là, nous annonce ce jour du jugement, ce jour du Fils de l'homme, c'est pour que nous puissions y échapper également. Alors quoi faire ? Alors quoi faire ? Et c'est ce que la suite du texte nous montre à partir du verset 32 et 33. Verset 32 nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », qui va en lien avec le verset juste avant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que la destruction de Sodome et Gomorre est imminente, l'Éternel va laisser ceci en consigne à Lot et sa famille. « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sinon, tu disparaîtras. » Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il commence à s'enfuir, la femme de Lot regarde en arrière et fut changée en statue de pierre. Ça rime. Elle regarde en arrière et fut changée en statue de pierre. Alors, je ne vais pas vous faire l'explication de ce passage dans Genèse 19, mais ça nous montre que pour Dieu, il est inconcevable de regarder en arrière à cette vie de corruption et de péché. Ça peut paraître évident, mais je sais que personnellement, j'ai échoué à le faire. Il m'arrive bien souvent, bien trop souvent malheureusement, de regarder à ma vie d'avant. Ah, c'était tellement plus simple avant. Plus besoin de se lever tôt le dimanche matin. On peut profiter du samedi soir pour faire la fête jusqu'à pas l'heure. Oh, ah, si seulement j'étais pas chrétien. Je pourrais faire telle ou telle chose sans me soucier de rien. J'aurais pu me marier avec cette jolie fille non chrétienne, si jolie. Plus besoin de mentir à mes collègues et à mes camarades de classe lorsqu'on me demande ce que je fais le dimanche matin. Plus de compromis, plus de double vie. Vous voyez comment parfois, moi aussi, je ressemble à la femme de Lot. On est un peu tous comme ça, n'est-ce pas? On regarde en arrière, plutôt que regarder avant, en avant. Et voici ce que Jésus, il attend de nous, qu'on vive prêt. Qu'on se rende compte que toutes ces choses qu'on pourrait avoir ou faire si on était dans ce monde-là, c'est rien du tout. Même pas comparable à simplement passer un moment auprès de notre Seigneur. Il nous invite à développer cette mentalité du pèlerin qui, au psaume 84, va dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Rappelez-vous le message de Stéphane Kaufmann il y a quelques semaines dans l'épître aux Philippiens. Considérez le monde comme une perte, parce que nous avons Christ comme gain. Considérons le monde comme une perte, parce que nous avons Christ comme gain. Ne regardons pas en arrière, ne regardons pas ces pseudo-gains manqués, mais développons une juste compréhension des bénédictions que nous avons déjà en Jésus-Christ. C'est Philippe Périllet, une image qui m'a marqué, qu'il avait fait en 2016 à AJC. Il nous disait « Pourquoi tu regardes en arrière la Ferrari que tu aurais pu avoir alors qu'en Christ, tu peux disposer d'une Bugatti Chiron ?» Alors forcément, j'ai perdu ceux qui ne s'y connaissent pas en voiture, mais à quoi sert de prendre une belle voiture quand on peut avoir la meilleure des voitures, entre guillemets. Je rappelle, c'était destiné à des jeunes. En clair, pourquoi tu vises trop bas ? Pourquoi tu vises trop bas ? En Christ, tu peux avoir tellement plus. Hier, on a eu un intergroupe de jeunes et on a chanté ce chant qui disait « Christ seul me suffit, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, tout ce dont j'ai besoin est en toi. » Est-ce que c'est comme ça qu'on vit ? Est-ce qu'on vit avec cette mentalité de dire « la croix devant moi, le monde derrière moi, Christ seul me suffit ?» Voici la première chose qu'il nous invite à faire. Deuxième chose, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Rappel de ce schéma que nous avait fait Pierre, on est dans cette deuxième partie de l'évangile de Luc, chapitre 9 à 19, où Jésus est en marche vers Jérusalem, où il commence à nous montrer qu'est-ce que ça implique d'être un disciple qui suit le maître. Et il commence ces chapitres en nous disant que pour être un disciple, il faut porter sa croix. Qu'il faut être le dernier pour être le premier. Et une fois de plus, dans Luc chapitre 17, Jésus nous invite une nouvelle fois à perdre notre vie pour la gagner. C'est-à-dire comprendre que nos vies sur terre, c'est plus que boire, manger, travailler, dormir, se marier. Nos vies sur terre, elles sont éphémères, passagères. Nos vraies vies, elles sont à ses côtés, dans son royaume. C'est ça qui devrait nous préoccuper le plus. Il veut qu'on ait cette vision claire, parce que son retour est imminent. Il sera soudain, et si nous ne sommes pas prêts, alors on sera comme les contemporains de Noé, comme les contemporains de Lot, comme les personnes qui sont décrites dans les versets suivants, qui vaquent normalement à leurs activités, et qui seront laissées sur le carreau. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui est écrit dans ces versets qui suivent, mais ce sont des versets qui nous donnent la chair de poule, qui nous glacent le sang une fois de plus. Voyez ce qu'il nous est dit. Deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. On nous parle de personnes qui font ces choses de la vie, ces choses banales, telles que dormir, et travailler. Sauf que l'une sera sauvée et l'autre sera laissée. Un jugement qui peut aller jusqu'à séparer des couples, des amis, des collègues de travail. Un jugement qui touche tout le monde, hommes et femmes. Alors qui sera pris, qui sera sauvé ? C'est ce qu'on nous montre juste avant. Celui qui fait ces choses, qui dort et qui travaille. Mais qui le fait avec la conscience du retour de Christ ? qu'il le fait avec cette conscience que revient, que Christ revient bientôt. C'est celui qui est prêt pour ce royaume, celui qui est tellement consacré à Christ qu'il est prêt à perdre sa vie et avoir ses bonnes choses de la vie comme des pertes afin de gagner Christ. Voilà celui qui sera pris et qui sera laissé alors. Qui sera laissé? Moi, toi, nous, normalement. Normalement, toutes les personnes ici seront laissées. Parce qu'aucun d'entre nous arrive à vivre constamment dans l'attente du royaume. Aucun d'entre nous n'y arrive. On faillit, on regarde en arrière. Et c'est parce que nous en étions incapables que Jésus l'a fait pour nous. Parce que vous connaissez le point commun entre les deux jugements, les deux cataclysmes qu'on a vus, celui du déluge et du feu de Sodome. Et le dénouement de ce jour de l'homme qu'on peut voir dans Daniel 7, qu'on n'a pas forcément le temps de voir. Le dénouement, c'est le suivant. C'est que Dieu fait grâce, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 18, « J'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Chapitre d'après, on nous montre que l'Éternel va fermer lui-même la porte de l'arche, il va être garant de cette grâce, de cette alliance. Genèse 19, on nous dit quoi? Qu'il voulait épargner Lot et sa famille, qu'il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre. Dieu fait grâce. Ce jugement, on le mérite, qui aurait dû être laissé, nous tous. Sauf que Christ a pris notre place, il a pris ce jugement à notre place. Deux versets qui nous le montrent dans notre passage, versets 25 et verset 33. Il a pris ce déluge, il a pris ce sulfure, et ce soufre et ce feu. Il a souffert beaucoup. Il a été rejeté par cette génération. Quand Jésus parle de cela, les disciples ne comprennent pas encore. Je suis sûr que plus tard, quand Jésus est revenu, ils le comprennent enfin. Il a souffert beaucoup, il a été rejeté par cette génération. Il est celui qui, par excellence, a perdu sa vie pour que nous puissions, si nous plaçons notre confiance en lui, si nous plaçons notre seul espoir en lui, avoir cette vie éternelle. Si nous choisissons de faire de lui notre priorité et de vivre préparés à son retour. Si nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes en disant « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », nous méritons ce châtiment divin. Mais par amour pour nous, Jésus l'a pris à notre place sur la croix. C'est ce que nous avons fêté il y a quelques semaines à la Pâque, ce Dieu qui fait grâce. La question que je veux te laisser, c'est « qu'est-ce que ça change pour toi ? » Qu'est-ce que ça change pour toi ? Avec quoi tu repars ce matin? Ces avertissements de Jésus, ils ne sont pas à prendre à la légère. Jésus veut que, premièrement, plutôt que de rechercher les signes de la fin et la venue de son royaume, nous le recherchions lui. Deuxièmement, il nous invite à ne pas vivre préoccupés par les choses banales de la vie, comme boire, manger, travailler, se marier. Il nous invite à chercher le royaume de Dieu et se préparer à son retour, c'est-à-dire faire de son retour ce qui conditionne nos pensées, nos choix, nos décisions, nos vies. Enfin, ces avertissements sont des panneaux de danger à tous ceux ici qui seront laissés, à tous ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de laisser Christ prendre les commandes de votre vie. Je ne connais pas tous et peut-être que certains, vous n'avez pas encore fait ce choix. Est-ce que ce matin, je peux vous au moins après ce qu'on vient de voir ensemble, vous inviter à y réfléchir. Ne repartez pas de la même manière dont vous êtes venu. N'hésitez pas à venir voir un responsable à la fin. Parce que je ne sais pas quand le royaume de Dieu arrivera, ni où. Et ce que je sais, et c'est ce que nous dit Jésus, c'est que lorsqu'il viendra, il viendra de manière soudaine et instantanée, comme un éclair. Et là, il sera trop tard. Enfin, pour nous qui sommes en Christ, quel rappel que le royaume de Dieu est déjà parmi nous, comme cette graine de moutarde qui grandit encore et encore. Et parce que par nous-mêmes, nous étions incapables d'être sauvés et qu'on méritait le jugement. Quelle grâce de se rappeler que Christ l'a pris à notre place. Que ce jugement, il est retombé sur lui. C'est ce qu'on a fêté il y a quelques semaines. Alors puissions-nous une nouvelle fois, et c'est ce qu'on essaye de, en tant qu'Église de devoir depuis quelques mois, quelques semaines, d'être ce disciple qui se met à sa suite, qui prend sa croix, qui est prêt à perdre sa vie pour la gagner. Mettons-nous à sa suite dans sa mort et dans sa résurrection. Puissions-nous, tous ensemble ce matin, rechercher Christ en étant préparés à son retour. Alors, es-tu prêt ? Amen.
Une idée de chant pour la fin.